Donc je m'appelle Clément Forest, je suis fondateur d'une petite société qui est basée à Strasbourg, qui s'appelle Digital Trainers, qui est issue de l'IRCAD en fait. Donc l'IRCAD, pour, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'Institut de recherche contre le cancer de l'appareil digestif qui est basé à Strasbourg. Donc on a été issu par SMH de cet institut. Et donc c'est une petite société qui s'occupe de concevoir et de développer des simulateurs de chirurgie. Voilà, donc en gros je vais vous présenter rapidement l'IRCAD, pour poser un petit peu le contexte. Et puis, après, je vous développerai un petit peu comment ce qu'on fait de la 3D à l'IRCAD, ce qui est fait avec la 3D à l'IRCAD, comment on obtient les modèles 3D des patients, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis après, plus spécifiquement sur la simulation, je vais vous montrer un petit peu de généralité sur la simulation de chirurgie, et puis présenter deux simulateurs qu'on a développés donc à l'IRCAD ou dans notre société. Le premier, un simulateur d'échographie, le deuxième, un simulateur de laparoscopie. Voilà. Donc l'IRCAD, juste pour resituer, c'est un institut de chirurgie qui est privé, donc basé à Strasbourg. Ça existe depuis une quinzaine d'années. Il y a plus de 3000 chirurgiens, 3500 chirurgiens formés par an, donc plein de communications, pas mal de communications scientifiques. Et puis, entre autres, il y a tout un pôle de recherche, donc dans différents domaines. Donc l'informatique, dont on va se préoccuper tout de suite après, mais aussi la robotique médicale, la chirurgie transluminale par les voies naturelles, qu'on appelle NOTS, la cancérologie, l'anesthésie, enfin, etc. Il y a plusieurs unités de recherche qui sont placées à l'IRCAD. Voilà, donc l'unité informatique qui est dirigée par le professeur Luc Soler se préoccupe beaucoup de 3D. L'idée, en fait, de ce labo, c'est d'arriver à introduire la 3D à tous les moments dans le cycle de l'opération, c'est-à-dire déjà pour obtenir les images, pour arriver à visualiser les images avec la visualisation volumique directe des patients, des images des patients, la modélisation après la géométrie des patients, arriver à obtenir la géométrie des patients de manière la plus rapide possible, la plus automatique possible. Et après, ça va être l'usage qu'on a, une fois qu'on a ces modèles-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Essentiellement, par exemple, une des premières choses qui ont été faites avec, c'était l'aide à la planification des opérations, à la visualisation, à la compréhension un petit peu de la géométrie du patient. La deuxième étape, donc, qui serait en bas là, c'est la simulation, ce qu'on va voir aussi un peu plus en profondeur derrière. Mais une fois que la simulation, en fait, c'est quoi? C'est arriver à voir aussi le modèle du patient, arriver à le voir animé, arriver à pouvoir interagir avec lui. Une fois qu'on a ça, il y a d'autres applications qui sont encore derrière qu'on peut imaginer. Donc on ne va pas développer aujourd'hui, mais juste pour les présenter rapidement, qui est la réalité augmentée. Donc pendant l'opération, avoir la vue du patient en 3D et avoir cette vue qui peut être aussi sur laquelle on peut agir un petit peu comme on agit sur le patient, mais en temps réel. Donc s'il respire, la vue 3D va respirer. Si on agit dessus, les découpes vont suivre, etc. Et puis la dernière application, c'est l'aide à la robotique, le contrôle pour les robots, aller vers une automatisation des opérations. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir un modèle du patient, le modèle, pas un modèle générique d'un patient, mais le modèle du patient que vous avez dans votre salle d'opération, celui que vous allez opérer. Et avoir ce modèle 3D la manière la plus rapide possible et la plus automatique possible. Donc, ça se fait avec des méthodes quasi complètement automatiques maintenant, mais enfin, il y a beaucoup de pas automatiques, c'est assez rapide. Ça se fait en une heure. On peut arriver à reconstruire un patient comme celui-là avec des méthodes qui utilisent un petit peu des connaissances a priori sur le patient. On va commencer par modéliser la peau, qui est le plus facile. Une fois qu'on a la peau, on va pouvoir avoir la deuxième chose la plus facile à faire, c'est les poumons. Une fois qu'on a les poumons, ben, on connaît la zone des poumons, on va pouvoir segmenter ce qui est à l'intérieur des poumons, donc la trachée, etc. En disant l'algorithme, ben, le poumon, il est là, donc ça nous évite d'être encombré par tout le reste. Et puis, comme ça, petit à petit, on arrive à avoir à peu près tous les organes qui nous intéressent dans le patient, jusqu'aux tumeurs, jusqu'au réseau vasculaire du foie. Donc ça, c'est des techniques, voilà, c'est à peu près tout automatisé, sauf les choses pour les vaisseaux et pour le foie, mais c'est assez rapide. Donc ça, c'est des modèles qu'on peut obtenir comme ça, qui sont obtenus quasiment en routine. À Strasbourg, c'est vraiment utilisé régulièrement. Quand il y a des cas cliniques, et ben on va faire une reconstruction du patient, et pouvoir après présenter au staff le cas reconstitué en 3D, pouvoir visualiser plus facilement les tumeurs, leur position par rapport aux veines, par rapport aux autres structures critiques qui sont autour. Voilà. Donc une fois qu'on a ces données patients, une des choses qu'on veut vouloir faire, c'est vouloir les visualiser. Donc l'IRCAD a développé un petit logiciel de visualisation de ces données patients, de visualisation d'images ICOM, donc d'images volumiques, qui permet de voir les vues axiales, frontales, sagittales, etc., qui permet aussi de visualiser en parallèle les maillages qui ont été reconstruits, qui ont pu être reconstruits à côté, et puis qui permet aussi d'avoir un rendu volumique simplifié. Donc je ne vais pas faire de démonstration, mais ce logiciel est disponible sur Internet gratuitement, peut-être téléchargé. Il est intéressant parce que justement, il y a plusieurs filtres automatiques pour le rendu volumique. Donc on peut charger un scanner et puis vouloir voir les muscles, vouloir voir les poumons, vouloir voir les os, vouloir voir le foie. Et il y a déjà les filtres de rendu volumique qui vont nous permettre de, en regardant simplement le volume scanner comme ça, avec un filtre particulier, voir apparaître automatiquement ces formes-là. Il y a aussi un grand nombre de bases déjà reconstruites. Donc juste pour dire, c'est un logiciel qui peut être intéressant aussi pour des étudiants, pour permettre d'utiliser ces scanners, de mieux les comprendre, de voir un petit peu comment c'est à l'intérieur, et de voir avec ces images reconstruites aussi, donc les géométries, de pouvoir les utiliser comme ça. Donc ça, c'est le logiciel, par exemple, ce qu'on peut faire avec. Enfin, c'est pas vraiment le logiciel qui est disponible, c'est un autre, mais qui est très ressemblant. Donc on a le scanner qu'on peut voir en 3D avec les coupes axiales, sagittales, frontales qu'on peut déplacer pour le visualiser. On a le maillage à l'intérieur, donc là les reins qu'on peut voir affichés, puis tous les organes qu'on peut afficher les uns après les autres, qui sont fondus dans qu'on peut voir après avec le maillage. Une autre chose qu'on peut faire une fois qu'on a cette rendu volumique, eh ben on peut, enfin ce modèle 3D, on peut donc l'observer, on peut imaginer faire une navigation virtuelle à l'intérieur, se balader dans la veine par exemple ici pour voir si par exemple la tumeur touche la veine ou pas. Voilà, c'est une des choses qu'on peut faire. On peut faire aussi une analyse un petit peu pour voir donc les tumeurs, voir à côté de quel vaisseau ils sont pour savoir dans quel segment il est. On peut, dans cette version du logiciel-là, proposer une proposition de coupe pour une hépatectomie, par exemple. Et puis après, pourquoi pas faire des volumétries pour savoir si la coupe qu'on propose, elle est viable ou pas. Voilà. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on peut faire avec des modèles 3D. Simplement. Donc pour ça, j'ai aussi, c'est intéressant pour des étudiants parce que c'est des choses qu'on peut faire sans le patient finalement. C'est des choses qu'on peut faire sur une base de cas. Alors ça, c'est des cas aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des cas qui sont vraiment issus directement de la salle d'opération. On les prend, c'est des patients réels. C'est pas des cas qui ont été construits, étudiés, etc. C'est vraiment les cas du quotidien qu'on peut facilement mettre dans ces bases de données pour pouvoir après les utiliser. Puis donc on les utilise en routine, mais on peut tout à fait aussi proposer ce genre de choses pour des étudiants pour voir comment ils sortent avec ça. Alors, on va essayer de passer. Voilà. Donc là, c'est toutes les choses qu'on peut faire avec ces... Une fois qu'on a le modèle 3D du patient, donc la navigation, j'ai dit, positionnement des outils chirurgicaux pour la planification de l'opération, savoir où c'est qu'on va placer notre endoscope, nos outils. Enfin, c'est beaucoup pour la chirurgie endoscopique ou la paroscopique, pour savoir où c'est qu'on va placer les outils, où c'est qu'on va pouvoir... est-ce que la position qu'on a choisie va être intéressante ou pas. Voilà, résection virtuelle, j'ai dit, calcul de volume, on peut analyser l'évolution des tumeurs. Si on a plusieurs images à instants différents, ben on peut récupérer les tumeurs, les étiqueter, calculer le volume automatiquement et puis avoir facilement des variations. Voilà. Bon. Je voulais aussi parler un petit peu du site WebSurge qui est attenant un petit peu à l'IRCAD, qui est une espèce de petite université en ligne aussi de techniques chirurgicales. Donc il y a beaucoup de vidéos d'opérations laparoscopiques, des techniques opératoires qui sont décrites pas à pas, et puis des interviews d'experts. Donc c'est quelque chose qui est aussi d'accès gratuit sur l'Internet. Donc le site, c'est websurge.com. On peut aller, donc les étudiants, beaucoup d'étudiants connaissent déjà ce site-là, où on a vraiment toutes les techniques qui sont décrites, etc. Donc pourquoi je parle de ça aussi? Parce que dans beaucoup de films, donc généralement c'est des films qui décrivent l'opération pas à pas, mais pour de plus en plus de films, le film est fourni avec le modèle 3D du patient qui a été reconstruit, donc le scanner qui a été anonymisé, et puis les modèles reconstruits de tous les organes, etc. Il y a une version du logiciel de VR Render qui est disponible à l'IRCAD, qui est lui disponible sur le site de WebSurge. On va pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités, donc charger un patient, avoir son modèle reconstruit, le manipuler, voir un petit peu les coupes, etc., voir le modèle plongé à l'intérieur, faire des mesures. Et puis surtout, donc là c'est le modèle, le rendu volumique, voilà, un exemple du rendu volumique qu'on a avec le foie. Et puis surtout, un accès à la vidéo de l'opération sur ce patient-là. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant, aussi assez didactique pour les étudiants, d'arriver à voir en parallèle la vidéo de l'opération et les données volumiques du patient, toutes les données, scanner, etc., pour voir un petit peu comment ça se passe et comment on a fait pour... voilà. Voilà, ça, c'était un petit peu pour la 3D, l'utilisation qu'on a à 3D à l'IRCAD. Alors, en plus de ces opérations, de ces manipulations qu'on fait avec les modèles 3D qui sont utilisés vraiment en routine, on a tout un pôle de recherche sur la simulation. Donc, je voulais refaire un petit bilan rapide de ce qui se passe en simulation en simulation de chirurgie essentiellement. Donc, il y a énormément déjà de simulateurs qui existent sur le marché. Donc, il y a plein de boîtes qui existent, qui sont déjà présentes, qu'on peut acheter, que plusieurs d'entre vous ont peut-être croisé déjà. Donc, ces simulateurs sont quand même déjà assez intéressants. Donc là, ce premier-là, c'est un des premiers simulateurs qui est arrivé sur le marché. Il a déjà plus de 15 ans. Donc, c'est vraiment très, très simplifié. Mais il y avait toute une réflexion sur les gestes chirurgicaux, sur quels sont les gestes intéressants, les gestes de base vraiment, et d'arriver à représenter ces petits gestes de base sans avoir vraiment la notion de patient. C'est pour dire qu'on pouvait faire quelque chose de très simple et qui était déjà assez efficace. Donc, ce qui est intéressant maintenant, il ressemble plutôt à ça, les simulateurs un peu plus réalistes. On va voir si, voilà. Donc ça, généralement, ça se présente comme ça, avec une espèce de table qui est censée représenter le patient, des systèmes robotisés qu'on appelle à retour d'effort, donc qui vont permettre de vraiment sentir le contact avec le patient. Donc quand on va toucher le patient virtuel, on va sentir dans le poignet une résistance qui correspond au contact du patient virtuel. Donc quelque chose d'assez réaliste au niveau graphique, on a vu. Au niveau mécanique, ça commence à être de plus en plus réaliste, même si, bon, c'est encore des choses assez compliquées à faire. Il y a aussi beaucoup de littérature de validation de ces logiciels. Donc on a déjà fait pas mal d'essais sur des étudiants pour voir si vraiment ça apportait quelque chose, et c'est assez positif. Donc vous voyez quand même qu'on a des choses qui peuvent être assez assez réalistes. Bon, ça c'est pour les bons côtés. Les mauvais côtés, c'est que finalement ces simulateurs, quand on regarde, ils sont très peu utilisés encore en vrai. Donc les universités vont pouvoir en acheter un, deux, quelques-uns comme ça. Ça coûte très cher, essentiellement parce qu'il y a des systèmes robotisés qui sont... donc un simulateur, typiquement, ça peut coûter dans les 100 à 150 000 euros. Donc c'est très très cher. Généralement, les universités achètent parce qu'ils ont une bourse ou une aide pour l'acheter. On l'utilise pendant un mois, 15 jours pour voir avec les étudiants. Puis après, on le met dans une pièce et ça prend la poussière. Alors, pourquoi? Parce que c'est pas encore ça. C'est pas encore vraiment ce qu'on attend. Alors, on se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qui manque. Donc, ça va être des manques de réalisme. Ça peut être aussi quelque chose sur lequel on travaille et on croit vraiment à l'IRCAD, c'est le fait qu'il y ait peu de variations anatomiques. C'est-à-dire que généralement, les cas sur lesquels on va opérer, c'est un cas qui a été reconstruit patiemment par un graphiste, qui a été peint, etc., qui a été... voilà. On a mis beaucoup de temps pour faire le cas et on n'a pas vraiment une grande variation de patients. Il y a un autre problème qui est l'effet jeu vidéo aussi, c'est que on va pouvoir facilement faire des erreurs. Et puis, si on fait des erreurs, c'est pas très grave de faire des erreurs, parce qu'on peut recommencer après. Donc ça, c'est pas une habitude à prendre forcément. Donc il y a besoin de jouer là-dessus aussi. Un problème aussi, c'est qu'on focalise uniquement sur le geste chirurgical. Mais quand on fait une opération de chirurgie, il y a plein de choses qui ne sont pas juste le geste. Il y a la préparation, il y a le dialogue avec les autres personnes dans la salle d'opération, le choix du matériel, la position, plein de choses, etc., qui ne sont pas forcément pris en compte dans ces simulateurs. Ça peut être un manque aussi. Il y a besoin d'accompagnage aussi. C'est-à-dire que quand on est tout seul avec le simulateur, il y a un phénomène de lassitude. On ne le fait pas trop, on le fait un petit peu par-dessus le coude comme ça. Il y a vraiment besoin d'avoir quelqu'un derrière qui va nous dire un petit peu comment le faire. Voilà. Et donc le prix, j'avais dit. Alors bon, c'est un petit peu les défauts des simulateurs actuels. Donc là, je vais présenter un petit peu les simulateurs qu'on a fait à l'IRCAD. Je ne veux pas dire qu'on a résolu les problèmes de la simulation en général, mais on a avancé sur certains points, je pense. Le premier simulateur qu'on a développé, donc il y a déjà 5 ans, s'appelle Horus. C'est un simulateur d'échographie. Alors, c'est un simulateur d'échographie qui va, à partir d'une image scanner, quelconque, qu'on va pouvoir récupérer directement du scanner, en fait, on la met dans le simulateur et on va pouvoir tout de suite, sur cette image scanner, réaliser une simulation d'échographie. Donc là, dans cette version ici, on a avec des petits systèmes à retour d'effort, mais la version actuelle, elle est encore moins chère que ça, elle utilise une webcam, puis bon, c'est encore des marqueurs, c'est encore expérimental, hein, mais c'est avec des marqueurs visuels, et puis on va balader le rectangle ici et l'échographe va bouger sur le patient. Et puis on va voir l'image. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une véritable image échographique qu'on a ici. C'est vraiment une simulation d'image échographique. Donc, elle est ressemblante, mettons, mais elle n'est pas vraiment réaliste. Donc, quelqu'un qui connaît vraiment l'échographie va nous dire, oui, mais ça, c'est pas blanc, c'est plutôt sombre, etc. Mais malgré tout, l'image est très ressemblante. On s'y laisse prendre si on regarde pas vraiment de près. Et puis surtout, on arrive à apprendre avec ça. C'est important. L'intérêt aussi d'avoir quelque chose qui provient directement du scanner, c'est que on a fait au début avec un scanner du foie, mais on a pu prendre d'autres sources, d'autres scanners, d'autres parties du corps, et le mettre directement dans le simulateur et avoir brusquement, au lieu d'avoir un simulateur d'échographie hépatique ou de thermoablation par de fréquence, donc quand on mettait l'aiguille dans le foie pour brûler la tumeur, c'est un petit peu là-dessus qu'on était parti, et on prend un scanner du haut du torse, et puis on a un simulateur pour la médecine urgentiste de ponction de la veine jugulaire. On fait ça avec le dos, on a un simulateur de péridurale. On a travaillé un petit peu pour, plutôt que de partir d'un scanner, de partir d'une IRM, et puis on avait un simulateur pour l'obstétrique. Voilà. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut faire des variations facilement. On est, au niveau du nombre de cas, on est limité simplement par ce qui arrive dans le scanner, en radio. On peut vraiment avoir facilement, pour construire comme ça une base de données facile pour avoir quelque chose d'assez vaste. Et puis, c'est aussi applicable à un grand nombre de domaines. On a fait utiliser ce simulateur par les étudiants externes qui passent dans les services, et donc entre autres à l'IRCAD. Ce qu'on a fait en gros, c'est que voilà, on les faisait utiliser une heure en gros par jour, une heure et demie par jour, sur le simulateur hépatique. Et puis, au bout d'un mois, on le faisait utiliser le simulateur, la version obstétrique du simulateur. Donc on avait un bébé, en fait, dans une IRM de bébé, et puis il fallait qu'il décrive la position du bébé, comment étaient ses bras par rapport, etc. Et on arrivait à se rendre compte que, alors qu'ils étaient tout à fait incapables de faire ça au début des 20 heures, à la fin, ils arrivaient vraiment à comprendre cette image échographique du bébé, comment elle était positionnée, etc. Simplement avec 20 heures de manipuler une échographie simulée sur le foie. Voilà. Donc, par contre, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment quelqu'un à côté, au moins pendant les 3 premières heures, pour aider à comprendre un petit peu ce qui se passait, etc. Mais finalement, 3 heures sur les 20 heures, c'était pas énorme. Et on a vu qu'il y avait vraiment un grand plus sur la façon avec laquelle les jeunes arrivaient à appréhender, alors qu'ils n'avaient pas du tout fait d'échographie avant. Ils arrivaient à comprendre l'échographie, à analyser l'image, à comprendre la relation entre la position de la main et la coupe qu'on voit sur l'écran, qui n'est pas forcément quelque chose d'évident, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour le simulateur Horus. Donc cette histoire d'avoir un patient qui provient directement du scanner, qui permet d'avoir une grande base, une grande variation de patients. L'autre projet qu'on a développé, c'est le simulateur de chirurgie laparoscopique. Le cadre qu'on a pris un petit peu était un petit peu différent. Là, on a dit vraiment ce qui manquait dans le simulateur, c'est le côté réaliste. Donc on a cherché à avoir un simulateur le plus réaliste possible au niveau de l'immersion. Donc alors que les simulateurs qui existent ont ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure sur le film, une boîte un petit peu générique avec il y a simplement des manches d'outils qui sont là. On a essayé de faire un simulateur avec des véritables outils laparoscopiques, avec un comportement à l'intérieur le plus réaliste possible. Donc on a développé ça. Donc on utilise des véritables outils qu'on a un petit peu modifiés pour faire ça. Et puis surtout quelque chose qui va faire une différence plutôt que de faire utiliser le simulateur dans un labo. On fait monter les jeunes dans la salle d'opération. On les met en costume, on les met au milieu des tables d'opération. À l'IRCAD, il y a une grande salle d'opération où, quand il y a des cours, les gens vont faire l'opérer sur les cochons, etc. On a mis le simulateur dans cette salle-là. Et le fait d'être dans l'ambiance, le fait d'être dans le costume, on se rend compte que les étudiants vont brusquement les gestes, les faire moins rapidement, faire beaucoup plus attention à les faire correctement, avoir des meilleurs résultats la première fois qu'ils le font, simplement parce qu'ils sont dans un environnement beaucoup plus réaliste. Et pas dans un bureau comme dans le laboratoire d'informatique. Voilà. Donc on voit un petit peu comment se comporte le simulateur. Donc on a bossé aussi sur le modèle un petit peu qui est derrière. Donc cette version-là, c'était pas encore ça, mais on a des modèles de déformation maintenant assez réalistes. Et on peut pousser assez loin la simulation. Voilà, donc pour dire en gros encore, c'est vraiment l'immersion est vraiment beaucoup plus efficace. Une limitation aussi pour les stimulateurs de chirurgie laparoscopique, c'est encore une fois, c'est que généralement on a des petits exercices assez simples et on n'a pas encore de prise en compte de l'opération dans sa globalité avec tout ce qui vient en amont de l'opération, la préparation du patient, la planification de l'opération. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille encore, qui ne sont pas encore finies, pour vraiment rajouter un petit peu d'intérêt dans ce simulateur-là. Voilà. Dernière chose, juste pour montrer encore ce qu'on pouvait faire une fois qu'on avait... parce que maintenant, on a développé des modèles de déformation qui permettent de simuler le patient et sa déformation. On a pu faire ce genre de choses. Ça va servir pour le suivi l'ablation des tumeurs avec les lasers, mais ça peut être aussi utilisé dans un contexte d'apprentissage. On va pouvoir avoir la modélisation ici en temps réel de la respiration et de la déformation des organes à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment en temps réel. On a un suivi de la peau là qui s'est fait avec la lumière structurée. On a la personne qui respire, et puis en temps réel, on calcule la position des organes. Voilà. Donc c'est des choses qui sont, une fois qu'on arrive à simuler le corps, etc., on arrive à faire des choses comme ça qui peuvent être intéressantes aussi pour la formation. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation juste. Mon mail, si vous avez des questions un peu plus tard, après. Et puis voilà.
Alors, je vais brièvement vous présenter, en étant très concret, ce qu'on a fait à Nice depuis maintenant 3 ans au sein du centre de simulation donc médicale et chirurgicale. Alors, je parlerai du concept de simulation médicale. On en a largement parlé déjà, donc je vais survoler ça. Je vous parlerai de ce qu'on fait en simulation médicale et puis en simulation chirurgicale. Alors, pourquoi la simulation comme technique d'enseignement? Nous, notre postulat, il a été de dire il faut pallier aux stages hospitaliers qui sont certaines fois très, très bien faits avec un enseignement qui ne se remplacera jamais, qui est l'enseignement au lit du patient. Mais malheureusement, les stages sont très hétérogènes. Malheureusement, il y a le plus souvent des défauts d'encadrement dans les hôpitaux actuellement. Donc, il fallait trouver un complément indispensable entre les cours théoriques et puis la formation au lit du malade. Alors, du côté des enseignants, la simulation, c'est très intéressant parce que ça permet d'apprendre les gestes techniques, naturellement. Ça permet d'appliquer des connaissances théoriques sans prendre de risques. Ça va dédramatiser des situations angoissantes pour les étudiants, typiquement le premier arrêt cardiaque ou ce genre de choses. Ça permet de faire un apprentissage à partir des erreurs, et Dieu sait si c'est important d'apprendre de nos bêtises, entre guillemets, en médecine. Ça permet de travailler la communication d'une manière très nette, en tant que pédagogue et puis au sein d'une équipe, de travailler en équipe, bien évidemment. Et puis surtout, ça permet de donner un outil d'évaluation de notre enseignement qui est reproductible et qui est parfaitement reproductible. Du côté des étudiants, les étudiants, eux, de notre petite expérience, ils sont ravis, mais ils sont ravis dès lors qu'ils vont avoir un retour de leur séance de simulation. Ça rejoint tout à fait ce que disait M. Forest. Il ne faut surtout pas planter l'étudiant devant un simulateur, le laisser jouer à son jeu vidéo, parce que là, il n'apprendra strictement rien. Il faut vraiment introduire la notion de feedback. L'étudiant, lui, va réfléchir dans l'action quand il est dans une situation de simulation médicale, bien plus que d'appliquer secondairement des connaissances théoriques qu'il a apprises quelques temps avant. Il faut que l'environnement soit réaliste, sans risque pour le patient, la communication, on en a parlé, la confiance en soi. Et en gros, nos étudiants, après des séances de simulation, ils se disent « on est quand même un peu plus zen et un peu plus compétent vis-à-vis de notre première rencontre avec le patient ». Et ça, on va le vérifier scientifiquement. Alors, le centre de simulation, en étant très pratique, ça a été conçu à la suite d'un partenariat qui a été développé avec Harvard Medical School en 2007 et 2008. Sur un budget du Conseil général, c'était un appel au projet innovant et de l'Université de Nice-Sophia Antipolis, un budget global d'1,2 million d'euros répartis sur 4 ans. Le centre, il est inclus dans la faculté et en équipe, alors pas une équipe permanente, mais en équipe investie dans le centre, il y a donc 4 médecins qui sont des médecins hospitalo-universitaires, plus toute une série d'instructeurs, que ce soit des instructeurs pour les enseignants, les enseignements en 2e, 3e, 4e année ou 6e année, pour la chirurgie. Et puis, on a un technicien qui est une des clés du centre de simulation, parce que tout ça, c'est de la technologie qu'il faut maîtriser et entretenir. Alors, en simulation médicale, qu'est-ce qu'on a fait? Finalement, on a mis en place dans un premier temps des séances de simulation qui se passent pour les D1, les D4 et des séances à la demande pour les D2 et D3. Les séances de simulation donc en D1 sont adossées à la sémiologie et au module 11 pour les D4. On va les entraîner au raisonnement clinique sur des brefs scénarios Et le concept, c'est l'apprentissage, c'est le concept de l'apprentissage et de l'enseignement contextualisé authentique. Donc, on va recréer vraiment un contexte le plus réel possible et on sait que ça joue énormément. Alors, l'architecture de notre centre de simulation, juste pour vous montrer le plan d'une salle de simulation médicale, on en a trois de ce type, donc au centre de simulation. On a une partie qui est la salle médicale dans laquelle figure le mannequin, donc ces fameux mannequins pilotés et animés qui parlent, qui ont des signes sémiologiques. Une salle pédagogique qui est attendante, dans laquelle on a donc une, comme vous le voyez, une table, quelques chaises et puis un écran interactif, un tableau Velleda pour pouvoir faire les débriefings. Une zone de pilotage pour l'enregistrement, pour la diffusion et puis pour piloter la séance de simulation où figure les ordinateurs donc de contrôle du mannequin et puis de contrôle de la salle. Et donc au sein de cette pièce se situe le mannequin dont vous les connaissez tous. Là, nous on a les Imman de la société Lerdal, mais enfin il y en a plusieurs sur le marché. C'est un mannequin qui est capable de parler, qui a des signes vitaux, qui va avoir un trismus, qui peut avoir qu'on peut intuber, qui va avoir une ventilation, à qui on peut faire un pneumothorax, qu'on peut sonder, à qui on peut mettre un drain thoracique, entre autres. Enfin, il y a toute une série de choses qu'on peut faire sur ces mannequins. Rien n'est improvisé, par contre. Ça ne sert à rien d'avoir un mannequin si on n'a pas réfléchi à l'utilisation qu'on va en avoir avant. Et la préparation est indispensable. C'est ce que disait tout à l'heure notre confrère de Paris. Il faut faire des scénarios. Alors, le scénario, ça se fait de la manière suivante. On a une histoire vraie d'un patient qui va, par exemple, faire une situation clinique très brève, un arrêt cardiaque, une crise d'asthme aiguë, une attaque de panique. On va détailler le déroulement, les paramètres vitaux, le contexte du patient, quel est l'équipement nécessaire, quels sont les objectifs d'apprentissage. Bien évidemment, on ne va pas donner les mêmes objectifs d'apprentissage pour des D1 ou des D4. Et puis, en fonction de ça, avoir une histoire qui est clinique, qui tient la route, naturellement, il faut que ce soit réaliste. On va préparer par rapport au scénario des plaques qu'on va pouvoir projeter. Est-ce que les étudiants demandent un ECG? On va pouvoir leur projeter un ECG, un scanner, un bilan, etc. Et on va préparer aussi des diapositives pour le débriefing, puisqu'après la séance de simulation, donc si on voit le déroulement d'une séance, on a un groupe d'étudiants qui vont jouer le rôle d'acteurs. Il va y avoir la séance de simulation auprès du mannequin qui va durer une quinzaine de minutes. Un autre groupe va être spectateur et puis après ils inversent les groupes. Un premier débriefing sur la manière dont s'est déroulée la simulation et un deuxième débriefing sur la mise au point de la pathologie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très rodé, qui doit être parfaitement organisé, sinon ça ne marche pas avec l'importance des débriefings. Alors, est-ce que ça marche? Oui, on l'a essayé, on a utilisé un test de concordance des scripts et très très schématiquement, on a pris des étudiants en D1 et des étudiants en D2. Un groupe d'étudiants D1 qui a eu des séances de simulation et l'autre non. Et on a contrôlé tout ça avec un test de concordance des scripts. Et globalement, après 8 séances de simulation, les D1 sont arrivés au niveau des D2. Alors, de dire qu'ils ont gagné un an d'enseignement, non. Mais sur ce sujet-là, le sujet qui était traité, ils ont gagné un an manifestement de compétences. Et de la même manière, ce qui est assez intéressant, c'est que ça marche très bien pour les étudiants qui ont le moins d'acquis médicaux. Donc, c'est un peu l'impression qu'on en a en simulation chirurgicale aussi. Alors, ben nous y voilà, la simulation chirurgicale. Alors, c'est un petit peu plus mon dada, j'espère que je ne vais pas être trop long. Pourquoi la simulation chirurgicale? Ben, l'éthique. Hein. Moi, je préférais me faire opérer par un interne qui a fait, même si le degré de réalisme n'est pas parfait, une vingtaine de vésicules en cellio avant qu'il m'opère moi. Et ça, c'est d'une manière générale. L'autre élément, c'est qu'on a des difficultés d'apprentissage qui sont très importantes en troisième cycle en chirurgie, puisqu'il y a le repos compensateur, il y a beaucoup d'internes, il y a moins de possibilités d'opérer. Donc tout ça fait en sorte qu'on a besoin de les former autrement. Les assurances et les certifications des professionnels, ben, ça nous pend au nez d'avoir des médecins qui sont validés par la simulation. Et puis naturellement, c'est très très efficace la simulation chirurgicale. Il a été prouvé dans la littérature par toute une série de tests et d'évaluations qui sont faites, notamment au Canada, que ça permet aux internes de progresser, que ça permet que les acquis sont pérennes dans le temps, que ça permet aux internes d'avoir une habileté technique qui est reproductible. Enfin, il y a énormément d'avantages. Alors, depuis ce mannequin qui existait au XVIIe siècle, on a bien progressé dans les simulateurs. Alors, je vais passer très, très vite après le brillant exposé de l'IRCAD. Mais il y a tout qui existe. On peut avoir des bras de perfusion. On peut avoir des mannequins pour faire des cathétérismes urétro. On peut avoir des mannequins à qui on va mettre une trachéotomie, un drain thoracique, on va évacuer un épanchement péricardique, on fait à peu près tout faire. Il y a de la peau synthétique, il y a des tissus sous-cutanés qui sont synthétiques. Il y a des petites boîtes qui sont très bien faites, qui permettent de mettre une compresse, d'apprendre à suturer, ici de faire des nœuds, d'apprendre à faire les gestes de base de chirurgie. Il y a des bouts de tubes digestifs virtuels qui nous permettent, enfin, réels mais synthétiques, qui nous permettent de faire des anastomoses intéressantes. Et puis en célioscopie, il y a différents types de simulateurs. Donc les plus simples, c'est les boîtes d'entraînement avec un élément qu'on appelle le FLS, qui a été développé par la Société américaine de chirurgie endoscopique et qui propose des tests et des exercices qui doivent être validés systématiquement par les internes pour valider leur board de chirurgie. Donc ça, c'est un outil indispensable. Voilà la boîte FLS. Un des exercices consiste à transférer des plots d'un côté à l'autre et de chronométrer. C'est excessivement simple, mais très très efficace. Il y a des simulateurs en réalité virtuelle, donc on en a déjà longuement parlé, mais globalement, il y a un retour de force, pas de retour de force, et ces simulateurs, ils sont intéressants. Là, vous en avez un exemple, avec ici un module que nous avons à la fac qui permet de faire la chirurgie robotique, donc qui permet de vaincre le contrôle des poignets en robot, entre guillemets. Ces simulateurs, ils sont intéressants parce qu'ils ont des outils pédagogiques. On va avoir par chaque exercice le temps d'exercice, la trajectoire des instruments, le nombre d'erreurs, le nombre de coagulations qui sont inadéquates, et ça va permettre de faire progresser l'interne par rapport à ces outils pédagogiques. Et puis ils sont aussi intéressants, alors non pas par le degré de réalité virtuelle, en effet je trouve que d'expérience et en tant que chirurgien, c'est pas encore assez réel, manifestement. Une intervention virtuelle, elle est beaucoup trop facile à faire. Par contre, ils sont très intéressants par tous les exercices qui ont été développés et qui sont des exercices qui permettent d'acquérir un automatisme sur un geste, qui est un geste qu'on doit faire de manière automatique en célioscopie, et c'est là où c'est vraiment passionnant. Alors, à Nice, qu'est-ce que nous avons? On a quatre types de simulateurs, donc on a des petites boîtes d'entraînement, on a des simulateurs de réalité virtuelle sans retour de force, dont un est un module de robotique, un simulateur avec retour de force, et puis on a tout simplement des petites planches de bois dans lesquelles il y a deux pinces sur les côtés pour fixer des compresses et pour apprendre aux internes à suturer sur des compresses, qui est quand même la base de la base. La planche de bois, elle coûte 6 euros, je l'ai fabriquée le week-end dernier, hein, donc on va d'une extrême à l'autre. Et puis on a naturellement nos mannequins, qui sont les mannequins Siemens, qui permettent de recréer des situations. Alors, les moyens humains pour le centre de simulation chirurgicale, on a deux directeurs pédagogiques, donc Dr Chevalier et moi-même. Il y a 6 instructeurs qui regroupent toutes les spécialités, chirurgie thoracique, viscérale, gynécologique, pédiatrique, etc. On a un technicien et une secrétaire. Comment est-ce qu'on a intégré le cursus, l'enseignement de la simulation en chirurgie à la fac de médecine? C'est un enseignement qui est obligatoire. Ça, c'est la première chose et c'est fondamental. Alors, si on réfléchit très très brièvement à la chirurgie, l'apprentissage au lit du malade, on va régler ça par la simulation médicale, en faisant des scénarios, et nos internes, on les fait travailler avec des réanimateurs, des urgentistes, sur des scénarios très très médico-chirurgicaux pour leur apprendre à travailler ensemble. L'enseignement des gestes techniques, ça se fait par des séances où ils sont 3 internes pour un instructeur, 15 heures par an, pour les premières, deuxième années, où ils vont avoir vraiment des séances, on est à côté d'eux et on ne les lâche pas, on les corrige toutes les 3 secondes sur leur mouvement, et à l'issue de ça, en troisième année, ils passent un examen d'aptitude technique sur des exercices qu'on a paramétrés. Et la troisième chose, on en parlait tout à l'heure, il faut les mettre dans un contexte. Et donc, on a réfléchi sur la qualité de soins et sur l'intégration des internes par la simulation dans le contexte vrai du bloc opératoire. Et c'est vrai qu'on a pour projet de recréer un bloc opératoire virtuel pour vous analyser le travail d'équipe. Alors, dernière chose qu'on a fait, c'était plus pour nous amuser, mais ça avait quand même une implication. Comme tous les CHU, on a mis en place la checklist du bloc opératoire et on s'est dit, si on faisait un film au centre de simulation pour voir comment est-ce qu'on peut extrapoler l'utilisation de la checklist dans un centre de simulation. Alors, pour vous expliquer, donc on était au centre de simulation, on avait fait venir une équipe pour recréer ça en fait.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
On a fait exprès de prendre les gens du coin.
Allez, ça va. C'est bon. Dépêche-toi, il désature là.
Ça va passer la chose.
Tu vois, c'est bon.
C'est
C'est bon,
allez,
ça roule.
Super, allez. Hop.
Bonjour, c'est pour savoir quand est-ce que Monsieur Durand peut descendre pour sa vésicule.
Monsieur Durand est là.
Ah, Monsieur Durand pour la vésicule, non, on vient de préparer. Quand est-ce qu'on peut le faire descendre?
Mais attends, c'est Monsieur Durand?
Bah, Durand Nicolas, nous.
C'est, oui.
Mais voilà. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui a vérifié ça?
Bon, rappelez les services pour savoir qui est là-haut. Et qui est-ce qu'on a endormi?
Bon, moi, je vais dire un petit peu je comprends pas.
Et pourquoi il n'a pas l'étiquette, le malade?
Ah, ben ça, c'est pas ma faute, hein.
Bonsoir,
ça,
c'est je sais pas non plus.
C'est le service, hein.
On est sûr d'avoir le bon dossier, là?
Bah non.
Je comprends pas que vous ne lui ayez pas demandé son prénom à l'entrée dans la salle.
Enfin, moi, j'étais pas là, j'étais en train de faire l'ouverture de l'Oxane. Moi,
mais qui est responsable de l'entrée du malade dans le bloc?
Tout le monde.
Voilà, donc on a après refait le scénario en appliquant la checklist. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a discuté donc avec les équipes qui ont confirmé le degré de réalisme. C'est donc un outil qui est manifestement adapté pour ce genre de choses aussi, pour appliquer des procédures de A à Z. Donc, très rapidement, les programmes en cours. Donc, on vous a parlé de la simulation médicale pour les différents étudiants. La simulation chirurgicale pour le troisième cycle. Les infirmières aussi, on s'en occupe, puisqu'on va leur organiser un programme de formation. Quels sont nos programmes à venir? Alors, on a fait les démarches pour être accrédité par l'American College of Surgery, qui est l'instance, entre guillemets, des centres de simulation, puisqu'il y a moins de 60 centres qui sont accrédités dans le monde. Et surtout, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'ils ont un recul là-dessus et sur l'évaluation de leur enseignement, dont on espère pouvoir bénéficier si on obtient cette accréditation qui, a priori, est en bonne voie. Et de la même manière, la Haute Autorité de Santé, par ce film sur la checklist, est très intéressée par notre travail et aimerait valider, entre guillemets, notre travail. Voilà. Alors, à venir, bon, on va prolonger tout ça, je passe brièvement. Juste pour vous dire que la simulation médicale, c'est ça, c'est-à-dire que on fait de la formation pré-graduée aux gestes techniques, etc. On va évaluer, on va recertifier, mais il faut avoir tout ça. Il faut avoir une zone de stockage, il faut avoir des moyens déjà pour acheter le matériel, mais surtout du temps et du temps humain, parce que ça prend excessivement de temps d'organiser les enseignements, de réévaluer les enseignements. Et je crois que vraiment le mot de la fin qu'il faut retenir, c'est que ça sert à rien d'avoir des simulateurs si on peut pas évaluer ce qu'on fait. Et je crois que c'est vraiment l'élément le plus important. Il faut avoir du recul là-dessus sur la qualité de l'enseignement. Je vous remercie.
En faisant tous ces efforts de formation, on diminue la iatrogénicité des internes en chirurgie débutants, des réanimateurs débutants, etc. Qu'en pensez-vous?
Alors ça a commencé à être démontré sur des procédures. Alors il y a très peu de procédures chirurgicales qui sont reproductibles, entre guillemets, mais ce qui a été largement étudié, c'est notamment la cholecystectomie célioscopique. Et il y a un certain nombre de simulateurs qui ont des modèles relativement réaliste en fait, et des papiers tout récents là en 2009-2010 commencent à faire justement des analyses de la iatrogénie et de la learning curve des internes, et ça c'est prouvé. Mais je crois que ce qui est très intéressant, ce qui est très important, c'est surtout de développer les outils d'évaluation propres à chaque simulateur, parce qu'on peut autant faire de la simulation avec une planche de bois, du fil et des compresses, qu'avec un matériel qui va coûter 200 000 ou 300 000 euros, mais toujours est-il qu'il faut l'évaluer correctement. Et là, notamment, c'est ce que font les équipes de Toronto qui travaillent énormément là-dessus, et sur le feedback et la manière dont ils adaptent leurs outils, en fait.
Les avancées technologiques et évolutions conceptuelles des outils pédagogiques dans le domaine cardiaque. Alors, d'autant que je ne suis pas informaticien, je suis physiologiste, mais je vais essayer de vous présenter surtout des outils utilisés en particulier à Rennes et sur l'UMVF. Donc, une brève introduction. Je parlerai quand même d'enseignement classique parce que pour essayer de comparer l'intérêt de ce qu'apporte le numérique actuellement par rapport à ce qu'on faisait avant. Et je prendrai, puis je vous montrerai un prototype à la fin. Je vais quand même essayer de montrer quelques simulations. Et j'ai pris l'exemple de la physiologie cardiovasculaire parce que c'est toujours des choses qui ont été qui ont fasciné l'humanité depuis toujours et qui sont difficiles à comprendre. La preuve en est, c'est que déjà à l'époque des Aztèques qui vénéraient le soleil au Mexique, là en haut des pyramides, de la pyramide de Teotihuacan, donc les grands prêtres c'était déjà des bourreaux des cœurs. Il prélevait le cœur d'une jeune vierge, il le présentait au soleil pour essayer de le faire, continuer de le faire vivre, et il s'apercevait que le cœur continuait à battre dans la main du grand prêtre. Alors ça a toujours fasciné les gens, comment ça peut se faire, comment c'est difficile à comprendre. Et les étudiants, c'est toujours la même chose, ils sont toujours fascinés par le cardiovasculaire que j'enseigne depuis des années, et ils ont quand même du mal à comprendre. Et donc ce que je voudrais montrer, c'est l'intérêt de l'évolution du numérique et des multimédias pour comprendre par exemple l'activité électrique cardiaque. Bon, évidemment, c'est peut-être moins compliqué que ce que va vous montrer demain Viber sur l'activité électrique du système nerveux, mais c'est quand même complexe parce que c'est quelque chose d'invisible qu'on a toujours eu du mal à comprendre et donc du mal à expliquer. Pour la mécanique qui en découle, c'est pareil, c'est du simultané dans un espace en trois dimensions et dans le temps, donc c'est pas facile. Alors je vais quand même retracer un petit peu l'évolution de l'enseignement dans ce domaine-là. Alors vous voyez bien que c'est déjà difficile à comprendre ces phénomènes électriques cardiaques, parce que quand on voit les appareils utilisés qui nous permettent d'analyser le potentiel cardiaque, on se dit tout de suite c'est pas possible, c'est forcément difficile vu les appareils utilisés. Alors ce que vous voyez là, c'était le premier enregistrement électrocardiographique fait par Wilhelm Einthoven en 1909 sur Darwin. Alors c'est pas le naturaliste, c'est son fils hein, qui était professeur de physique expérimentale à Cambridge, et donc il a obtenu ce que vous connaissez tous maintenant, un enregistrement de ce type-là, qui est donc un électrocardiogramme avec ses ondes. Et c'est quand même un mystère extraordinaire, quel est le lien entre la forme de ces ondes et le potentiel de chaque cellule cardiaque. Et la figure de gauche, finalement, ce n'est que le résultat de l'intégration de tous ces potentiels cardiaques unitaires. Alors, déjà, le potentiel unitaire cardiaque transmembranaire, c'est difficile à expliquer. Donc, dans le temps, on l'expliquait avec des planches comme ceci, en disant la cellule cardiaque, c'est une pile de concentration, et finalement la dépolarisation, la repolarisation, c'est dû au mouvement, aux variations du potentiel chimique et électrique des ions à travers la membrane. Alors finalement c'est des mouvements tout ça. Alors depuis le début je me suis dit, c'est quand même maintenant avec les ordinateurs et la modélisation et les animations, c'était pas encore la modélisation, on va en parler, c'est quand même plus facile si on représente les mouvements par des choses animées. Et effectivement, je crois que les étudiants comprennent quand même tout de suite beaucoup plus facilement que l'intérieur d'une membrane va devenir positif s'il y a une entrée d'ions positifs. Et tant qu'il y aura des ions positifs à rentrer, ça va rester positif. Donc ça, c'est pour la dépolarisation. Puis finalement, quand ils voient des ions positifs sortir, comme le potassium, eh bien l'extérieur redevient positif. Et là, je pense qu'ils comprennent tout de suite beaucoup mieux. Donc je ne vais pas insister là-dessus. Ça, ce sont des petites animations en 2D. Mais donc c'est pas très difficile à faire avec des programmes, des flashs de chez Adobe. Autre chose est de comprendre comment on va arriver à l'ECG avec ça. Alors évidemment on utilise des planches fixes en montrant que la progression des potentiels d'action est décalée dans le temps et dans les tissus, et donc tout ça aboutit à la forme de l'ECG. Bon, là aussi on peut comprendre qu'avec des couleurs et des animations on va comprendre un peu mieux si on voit progresser le front d'activation dans le cœur. Donc ça rend service aussi, je ne vais pas vous montrer toutes les animations, hein, mais j'ai essayé de suivre une progression pédagogique dans le raisonnement. En tout cas, je sais que depuis des années que j'enseignais ça, on utilisait des outils classiques dans le genre... On peut expliquer le CG par la théorie de l'angle solide, ou bien l'expliquer par les potentiels d'action inversés, et le CG c'est une différentielle entre les potentiels d'action. Bon, toutes ces théories sont un petit peu fausses d'ailleurs, et finalement avec les années je me suis aperçu que même si les étudiants en médecine en général n'aiment pas la physique, finalement ce qui est le plus facile à comprendre pour eux, c'est d'utiliser la représentation vectorielle d'un dipôle dans chaque cellule et puis le dipôle cardiaque général, et leur dire que finalement la forme des ondes est expliquée par la projection orthogonale de ce vecteur cardiaque qui tourne dans l'espace sur chaque dérivation. Alors au début j'ai fait ce petit schéma là, puis je me suis dit mais finalement si j'animais les choses ce serait quand même beaucoup plus clair. Alors j'espère vous en convaincre, je vais juste vous montrer un petit extrait donc d'une simple animation en 2D pour vous montrer que là on comprend quand même facilement la forme des ondes. Donc c'est un CD-ROM que j'ai déjà fait il y a pas mal d'années et qui est disponible en partie sur l'UMBF et puis autrement gratuitement à la bibliothèque de médecine de Rennes, et les étudiants me disent oui on comprend quand même, c'est pas simple mais on comprend quand même plus facilement quand on voit que le potentiel est transmis sur une dérivation et puis que finalement le vecteur potentiel cardiaque qui tourne, eh bien il donne la forme des ondes. Et on peut comprendre aussi facilement la différence de forme des ondes en fonction de la dérivation où on enregistre, rien qu'avec un petit schéma comme ça. Donc ici, le vecteur potentiel tourne, change d'amplitude, etc. En D3, il va donner les mêmes ondes, mais avec une petite amplitude, parce que le vecteur est surtout perpendiculaire à la dérivation, alors qu'en D2, où il est presque parallèle, eh bien les ondes sont beaucoup plus grandes. Donc vous voyez là, j'espère vous avoir convaincu que rien que des petites animations comme ça, ça apporte beaucoup pour la compréhension de certains phénomènes qui sont dynamiques et invisibles en médecine, en physiologie en particulier. Ça, c'est parce qu'on l'a vraiment montré que, en fait, une chose n'était vraiment acquise, un phénomène biologique complexe n'est vraiment acquis que quand le cerveau a su transformer des mots entendus ou lus ou des images fixes en animation dynamique en 3D dans le cerveau. Donc là-dessus, évidemment, c'est intéressant, même pour la, je vais pas vous montrer, mais pour la mécanique, c'est pareil. Si on fait pas à pas, on peut animer ce cœur en pseudo 3D. Si on voit chaque cavité se contracter, les orifices s'ouvrir les uns après les autres, et qu'on fait défiler en même temps la variation du volume, de la pression dans les artères, la pression du ventricule gauche, du ventricule droit, des oreillettes, eh bien, on comprend facilement, beaucoup plus facilement, l'évolution de ces paramètres hémodynamiques si on voit le cœur s'animer en même temps et pas à pas en plus. Bon, je vous le montrerai pas non plus. Je vais aller plus loin parce que il y a des choses qui sont devenues beaucoup plus extraordinaire depuis vraiment l'avènement de la modélisation. Ça, ce n'était que des animations. Mais maintenant, on fait de la modélisation. Enfin, maintenant, déjà en 1971, Paul Dalcher, qui était un élève d'Edouard Gorabeuf, avait réalisé une vraie modélisation électrique du cœur. C'était cet appareil que j'ai vu, qui est donc une représentation mécanique du cœur. C'est quelque chose de lourd. Je l'ai vu, c'est grand comme ici le pupitre. Mais ça montre bien que la progression d'un potentiel d'action amené par des électrodes en différents endroits du cœur entraîne la forme des ondes d'une dérivation des deux. Donc ça, c'est vraiment une modélisation, et la démonstration est magnifique et elle est facile à comprendre. Mais avec l'informatique, on n'a pas besoin d'avoir des appareils aussi lourds, aussi encombrants. Il suffit de remplacer le cœur ici en métal inclus dans une planche de bois par une image sur un écran avec des pixels qui représentent les cellules. Quand on fait du 3D, ce sont des voxels, et on peut leur donner donc une représentation anatomique assez exacte, et puis on peut, grâce aux mathématiques, modéliser, enfin les donner des propriétés électrophysiologiques aux cellules. Alors c'est ce qu'a fait un mathématicien que j'ai rencontré, qui est à Rennes et qui que j'ai trouvé absolument formidable. Donc je travaille depuis plusieurs années avec une petite entreprise privée qui s'appelle Integrative Biocomputing. Donc il a, vous voyez, d'après le nom, il a les mêmes problèmes que moi, donc faire de la physiologie intégrative. Et là, il a fait des outils, il a fait des modèles extraordinaires du cœur. Et puis maintenant, on le verra à la fin, en conclusion, d'autres organes. Et donc, il n'y a pas forcément en pédagogie besoin de choses très complexes pour faire comprendre des choses compliquées. Il a, par exemple, il y a trois modèles intéressants qu'il a créés. Vous avez ici un simple modèle en 2D. C'est un morceau de tissu cardiaque. Et rien qu'avec un code de couleur, on peut représenter la progression de l'influx électrique. Et donc là, on peut comprendre la progression de cet influx. Sur un cœur complet, mais en 2D, on peut voir le fonctionnement de l'influx et sa progression dans un cœur normal, mais aussi dans un cœur pathologique. On peut modéliser le cœur avec toutes les pathologies qu'on veut. Et s'il le faut, pour des exemples plus compliqués, on peut avoir du 3D. Alors, je vais pas vous donner beaucoup d'exemples, mais je vais vous expliquer un petit peu comment c'est fait, parce que c'est protégé par la confidentialité, mais le cœur, qu'il soit en 2D ou en 3D, il imite vraiment en 3D, en tout cas, la structure d'un vrai cœur. Et puis, vous voyez qu'avec des tableaux comme celui de droite, ici, on peut paramétrer chaque cellule. Alors, évidemment, le cœur en 3D a 300 000 cellules, enfin 300 000 voxels, le cœur en 2D, 25 000, on divise en régions, mais on peut, région par région, donner des caractéristiques électrophysiologiques, et puis on va programmer grâce à des formules mathématiques. Bon, c'est un mathématicien qui peut faire tout ce que je lui demande, il est extraordinaire. Et vous voyez, par exemple, la conduction dans le cœur est anisotropique, ça a été montré en 79 par Roberts, dans le sens de, dans l'axe des fibres, ça va plus vite que transversalement. Donc tout ça est pris en compte, et finalement, pour comprendre des choses qu'on devinait avant de les avoir démontrées, comme des réentrées en cardiologie, eh bien ça, c'est très facile. Bon, ça a été difficile à montrer en 1972, sont Witt, Greenfield et Hoffman qui ont montré avec des microélectrodes que des zones déjà dépolarisées pouvaient être réexcitées, donc, et créer des extrasystoles. Ça a été démontré de façon invisible grâce à des enregistrements. Mais alors maintenant, avec un petit patch de cœur comme ça en 2D, on crée ici une petite zone pathologique. On va donner à ces cellules les caractéristiques électrophysiologiques de cellules ischémiées, et on va faire partir l'influx d'en haut à gauche, et on va le voir qu'il va pouvoir rentrer selon les circuits de réentrée. Donc on peut paramétrer comme on veut, mais l'influx va, dans certaines conditions, pouvoir re-rentrer dans la zone malade qui se repolarise un peu plus tard, et l'influx va repartir réexciter la zone qui a déjà été excitée. Donc là, les étudiants comprennent très facilement le fonctionnement des réentrées. Et avec le cœur en 2D, mais dans son entier, en donnant donc des propriétés de conduction spéciale, on peut créer une zone de réentrée et créer un ECG où on voit une tachycardie ventriculaire ou un flutter ventriculaire. Et puis si on remodifie les propriétés électriques des cellules comme si elles avaient reçu l'injection d'un médicament, parce qu'on sait que ce médicament va modifier les propriétés électrophysiologiques, eh bien on voit la dépolarisation redevenir normale et le ECG se normaliser. Donc c'est intéressant aussi pour les prédictions en recherche pharmaceutique et évidemment en enseignement aussi. Donc vous voyez, avec du 2D, on peut déjà faire beaucoup de choses. Pour des étudiants qui sont à un niveau plus élevé, on va utiliser le modèle en 3D. Alors là, je vais quand même vous faire une petite démonstration, je n'y résiste pas. Donc en 3D, vous voyez que ce cœur a été construit vraiment comme un cœur humain réaliste, avec l'orientation des fibres des différentes couches. Et on va paramétrer les différentes couches cellulaires, enfin l'endocarde, l'épicarde, etc., en fonction des travaux de Durer, par exemple, sur 70, d'Alchien 80, sur le chien ou sur le cœur, pour voir comment progressent vraiment les potentiels électriques cardiaques. Et à ce moment-là, pour faire comprendre à un étudiant, par exemple, la différence entre entre telle ou telle pathologie et la forme de l'ECG, ça va être beaucoup plus compréhensible parce que très visible. Alors vous avez remarqué que ces modèles créent, engendrent eux-mêmes leur propre ECG. Alors comment c'est possible? Parce qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il a fallu simuler aussi le thorax dans lequel se trouve le cœur. Et à ce moment-là, la transmission des champs électriques est faite selon des lois mathématiques que vous avez ici en bas. Et donc, on va pouvoir simuler les potentiels de surface du thorax. Et donc, à partir de ce thorax simulé, on peut avoir absolument toutes les tracés de dérivation ECG qu'on veut, comme si c'était vrai. Donc, je vais vous montrer juste un exemple de reproduction, de simulation, donc d'un flutter ventriculaire en paramétrant des cellules dans un endroit du ventricule gauche où on a créé une ischémie, donc simuler une ischémie dans cette zone-là. Et si je fais démarrer donc l'influx de façon normale qui va partir du sinus de l'oreillette droite ici, vous allez pouvoir suivre la progression de l'influx dépolarisation dans l'endocarde, dans l'épicarde. Et là, vous allez voir que je vous raconte pas le code de couleur, mais ça parle un petit peu tout seul. Et vous voyez ici, si vous regardez bien, il y a des propriétés qui font qu'il y a une réentrée qui va se reproduire, et donc l'ECG qui était normal au début devient un ECG de tachycardie ou flutter ventriculaire parce que la réentrée est telle qu'elle va se reproduire X fois à une certaine fréquence. Regardez bien ici, vous allez voir la réentrée se produire à ce niveau-là. Voilà. Et ça, les circuits sont tels que ça se rend. Et donc, on peut paramétrer absolument toutes les pathologies, surtout des troubles du rythme qu'on veut. Bon, je vais tenir le temps, hein, j'ai promis. J'ai demandé un peu plus de temps, mais c'est parce qu'il y a d'autres simulations, d'autres modélisations qui sont encore plus intéressantes. Même si ce n'est que de 2D, par exemple, l'entreprise IBC a créé un modèle qu'il appelle le modèle qualitatif. C'est du 2D, mais avec une base de données qui est implémentée par ses propres événements qui se passent dans le cœur en 2D, et associé à un module d'intelligence artificielle, eh bien ce cœur est capable d'auto-expliquer les cas qu'on lui a fait engendrer. Donc vous voyez, ici vous aurez ici l'animation qui montre la pathologie, enfin électrique en tout cas, sur le plan électrique, le CG engendré, le diagramme qui explique la progression ou la non-propagation de l'influx, le blocage à certains endroits, et tous ces événements sont expliqués par le modèle lui-même. Donc ce modèle-là, moi je l'utilise pour niveau deuxième et troisième cycle, pour que les étudiants s'entraînent à analyser les troubles du rythme. On peut créer pas mal de troubles du rythme différents. Alors on peut imaginer différents scénarios. On peut soit montrer un ECG et demander à l'étudiant, au vu de l'animation, de nous dire où sont les blocs, comment, où est-ce que ne s'est pas propagé l'influx, etc. Ou bien lui montrer l'animation, lui dire quelle va dessiner le CG et le cas qu'il a en face des yeux. Bon, alors maintenant, il y a encore mieux à l'heure actuelle, puisque on vous en a parlé tout à l'heure. Jean-Marc Labat nous a parlé du contrat qu'on avait obtenu à Rennes et avec IBC, toujours sur les Serious Games. Donc maintenant, utiliser l'appétence des étudiants pour le jeu informatique et l'utiliser pour qu'ils apprennent de la médecine. Eh bien, nous avons donc obtenu un contrat en association avec Télécom Sud Paris, Pierre et Marie Curie, et puis Gameco, qui est une autre entreprise privée, et on va utiliser la PGMS de IBC. Alors on a choisi l'EDEM, comme vous l'a dit tout à l'heure Jean-Marc là-bas, parce que c'est d'une richesse clinique formidable. Donc là, l'étudiant va pouvoir, en fait, bon ça c'est pas la partie Jean-Marc là-bas, mais l'étudiant va pouvoir naviguer en 3D dans un patient dont, certes, selon le scénario, le cas clinique, ce sera certes tel ou tel organe dont le fonctionnement sera modifié. Alors ça pourrait être un cœur, le cœur, ça pourrait être les veines profondes des membres inférieurs, le foie, la rate, ou bien une pathologie mettant en cause le système respiratoire ou le rein. Alors, ces organes-là sont créés par la PGMS, c'est-à-dire une plateforme générique de simulation et de modélisation. C'est-à-dire que on lance la plateforme créée par IBC. Donc, bon, là, il y a de la confidentialité. Je vous expliquerai pas tout le fonctionnement, mais il y a trois éléments dans cette PGMS. Il y a un générateur de modèles et ce sera multi-échelle. C'est-à-dire que le patient, on aura créé le patient avec ses organes. On pourra aller du macroscopique, c'est-à-dire, je vais vous montrer juste pour terminer en conclusion, un rein, mais on peut aller aussi jusqu'aux glomérules et aux rénales, donc jusqu'au microscopique, et donc ceci associé à des intelligences artificielles et des bases de connaissances. Et donc, vous allez, par exemple, cette PGMS a créé un rein en 3D avec toutes les pyramides rénales, les tubes collecteurs, le système afférent, efférent, artériel et veineux. Donc, en conclusion, j'espère, je vais vous montrer juste un petit voyage dans l'organisme, dans le cœur humain, avec ce que peut faire la PGMS sur l'exemple du rein. Et puis donc j'arrêterai là, mais vous voyez, je pense que je ne suis pas un fou de l'informatique, hein, mais je pense qu'il y a des outils qu'il faut savoir utiliser en complément d'enseignement, et non pas pour remplacer l'enseignement classique. Je crois que tous les enseignements ont leur intérêt, tous les types d'enseignement. Mais vraiment, là, je crois que dans le numérique, il y a des choses qui sont quand même intéressantes à utiliser. Donc voilà, on va. Alors là, ce sera interactif, c'est-à-dire que l'étudiant, en fonction du cas et de son raisonnement clinique, va dire je choisis d'aller voir le rein ou choisis d'aller voir le système respiratoire pour voir si, ou quelle est la cause du cas clinique qui provoque l'édème. Donc vous voyez ici le rein avec six pyramides rénales. Donc tout ça c'est formé par la PGMS, c'est-à-dire que ce n'est pas, on a demandé à un infographiste, tu nous fais un néphron, combien de temps il faudrait pour faire un rein? C'est-à-dire qu'il va faire du copier-coller, il va reproduire 500 000 fois les néphrons pour reproduire tous les néphrons qu'il y a dans le rein. Là, c'est pas du tout ce système-là, on part de quelques cellules souches. Nous étions allés voir Rabino à Paris pour voir les principes d'embryogenèse, et c'est la PGMS qui va engendrer ces tubes collecteurs et tous les néphrons, et jusqu'à au niveau donc cellulaire. Et il n'y a pas de néphrons et de tubes qui sont pareils. C'est pas des éléments finis. Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors actuellement, on a des thésards qui travaillent parce qu'évidemment, pour créer tout ça, il faudra en fait avoir des grids, c'est-à-dire des réseaux d'informatique pour pouvoir faire les calculs qui sont très compliqués avec des feedbacks à chaque fois pour revenir sur l'avancement de ce que crée la PGMS. Donc vous voyez là, on va passer au niveau du néphron individuel. On va enlever la capsule de Bowman et on va aller au niveau du glomérule. Je suis peut-être allé un petit peu vite. Voilà. Donc un tube urinaire, le système artériel, le système veineux, afférent, efférent. Là, on arrive au niveau du glomérule. Il n'y a pas que l'anatomie, il y a aussi la fonctionnalité. Bon, alors il faudra évidemment créer la filtration. Bon, mais je pense que Pridissy Regard est un mathématicien tellement extraordinaire que rien ne le rebute. Il y arrivera, il faut seulement du temps. Mais vous voyez, on a déjà créé la circulation. Donc on peut même aller voir à l'intérieur. Donc vous avez les éléments figurés ici qui circulent dans les artérioles. Et les mouvements de ces hématies et des ions que vous voyez ne sont pas préprogrammés non plus. C'est la machine qui calcule en fonction des lois de la cinétique, des chocs, etc., entre eux, sur la paroi, sur les particules elles-mêmes, et donc la pression qui est donnée, qui est modélisée mathématiquement, les particules avancent. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt. Je vous remercie.
Bonjour, donc je viens de l'Université de Lyon. Donc on m'a demandé de vous parler du web. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique du web, mais on va rester au niveau conceptuel. Sur qu'est-ce que le web a changé dans nos vies, qu'est-ce que le web change pour l'enseignement. On a tous appris avec le texte. On a appris dans les bouquins, on a appris en écrivant, en prenant des notes dans les amphis. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Maintenant, on travaille sur des textes qui sont numériques, des informations qui sont digitales. On travaille avec des choses qu'on peut accéder en ligne, qu'on peut facilement accéder sur différents types de supports. Et il y a une chose aussi qui est intéressante, j'espère qu'on a le son. Mettre le son un peu plus fort.
I want to begin by reminding everybody that the web that we have is less than 5,000 days old. Okay? So everything that we now take for granted, satellite images of the Earth, your family tree, all patents, anyone's phone number, everything for sale, government forms, weather everywhere, all your friends, real-time stock quotes, newspapers, sports scores, for sale ads of everything you can imagine, real estate prices, library books, street maps, everything on auction, all movies, all regulations, Library of Congress, all this stuff has happened in 5,000 days.
Ce que Kevin Kelly dit, c'est qu'en 5000 jours, on a créé du web, on a créé des contenus, on peut accéder à toutes les radios dans le monde entier, on peut accéder à tous les journaux, on peut accéder à toutes les lois dans le monde entier. Et ça s'est fait progressivement en très peu de temps. Dans l'histoire de l'humanité, c'est jamais arrivé qu'on ait une accélération des connaissances. Ça s'est fait parce que les technos ont explosé. On discutait à midi, on n'a plus de limitations sur les disques durs, ça n'existe plus. Maintenant, on a 15 téra, nous, en ligne à l'université. Sur Facebook, c'est 1 péta par jour. 1 péta, c'est 1000 téraoctets. 1 téraoctet, c'est 1000 gigas. Donc, c'est des choses qu'on, les contenus, on peut les, techniquement, les, c'est des services aussi qui apparaissent. Sur Facebook, il y a 500 millions d'utilisateurs. C'est 100 millions d'images par jour qui se déposent sur Facebook. Donc, c'est des choses qui sont complètement exposées. Il y a des choses qui arrivent aussi sur l'instantané. Avec Twitter, on peut accéder à des informations de partout. On partage des informations entre nous. Des gens là qui sont dans la salle peuvent envoyer des messages. On peut interagir. La prochaine révolution, c'est sur la géolocalisation. On va dire où on est tout le temps. Il y a Serge Dupaloff aussi qui avait fait un truc que j'aime bien sur le numérique. Dans les vieilles technologies, enfin dans l'industrie, quand on veut partager, c'est divisé. Une pizza, je la partage en quatre, je fais quatre bouts de pizza. Dans le numérique, quand je veux partage, je multiplie. J'ai un fichier MP3, j'envoie à 4 amis, j'ai fait 4 fichiers MP3. Donc c'est quand même quelque chose de différent. Et on a des usages qui sont énormes, qui sont en train d'exploser. Donc là, je ne sais pas si on voit bien mon écran. Pendant que je suis en train de parler, tout ce qui est en train de se passer sur Internet, le nombre de posts qu'il y a dans les blogs, le nombre de nouveaux membres sur Facebook, le nombre de messages envoyés sur Twitter, le nombre de vidéos regardées sur YouTube, le nombre d'applications qui sont téléphonées sur iPhone, etc., etc. Il y a vraiment une échange d'informations, une explosion, une communication dans tous ces médias, dans toutes ces choses-là. Chaque minute, il se dépose 24 heures de vidéos sur YouTube. C'est quelque chose qui est assez exponentiel. D'ailleurs, la vidéo est en train de prendre cette graphique qu'on voit là, en 10 ans, à prendre 50% du trafic web, c'est de la vidéo actuellement. Donc c'est quelque chose qui arrive, qui remplace le texte, hein, on revient sur le texte. Et donc ça change des choses par rapport au savoir, où les gens peuvent se regrouper. Un des exemples, c'est Wikipédia, où les gens peuvent se grouper sur des wikis et créer des nouveaux contenus, créer des encyclopédies.
Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant.
Donc ça, c'est une conférence que Michel Serres avait donnée pour les 40 ans de l'INRIA en disant on peut tout mettre là-dedans. À partir d'un terminal comme ça qu'on a sur soi, on peut accéder à tous les savoirs. Donc ça pose un problème. Ça pose des problèmes aussi de génération. C'est pas notre génération. C'est comment accéder à ça, comment comprendre les nouvelles... Ah, j'ai 10 minutes. Donc ça change aussi chez nos étudiants. Qu'est-ce que ça change chez les étudiants? Quels sont les comportements chez nos étudiants par rapport à ces nouvelles technologies, par rapport à ces savoirs, par rapport à tout ce qu'on leur met à disposition ou tout ce qu'ils ont, eux, à disposition? Chaque année, je fais une enquête auprès des étudiants. Depuis le siècle dernier, je demande aux étudiants qui rentrent à l'université au départ, puis maintenant surtout les étudiants, qu'est-ce que vous avez comme type d'équipement. Donc en 99, 45% des étudiants n'avaient pas d'ordinateur, n'accédaient pas à un ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue en 10 ans, qui a vraiment évolué. Je ne sais pas si on voit bien la courbe. En haut, c'est ceux qui ont un desktop. On voit arriver aussi de plus en plus les étudiants qui ont un portable. Majoritairement, les étudiants maintenant ont un ordinateur portable qui a remplacé le desktop. Donc maintenant, il y a très peu d'étudiants qui n'ont plus d'ordinateur, qui n'ont pas accès à un ordinateur. La même chose, c'est le siècle dernier, 65% des étudiants n'avaient pas accès à Internet. Donc il y a eu le développement du haut débit, c'est la courbe orange, qui a vraiment explosé, 95%, 97% maintenant des étudiants à Lyon ont accès au débit. Après, quand on demande aux usages, ça c'est des choses, des cours que je fais aux étudiants, qu'est-ce que vous faites avec vos ordinateurs? Comment vous travaillez avec vous? Comment vous communiquez avec vous? Comment vous échangez? En fait, comment vous construisez vos... Ça, c'est aussi partie de mes recherches. Comment vous construisez vos réseaux de recherche, de savoir, de connaissances? Et ce qui est assez frappant, c'est le nombre de... Ils sont tout le temps en contact entre eux, avec un groupe qui n'est pas forcément le groupe qui est dans l'amphi. C'est les groupes des copains, c'est le cousin qui est dans une autre faculté qui fait les mêmes les cours, et choses comme ça. Ils échangent sans arrêt avec différents types de médias. Ils n'ont pas tous le même média. Il y en a qui sont sur MSN, il y en a massivement sur Facebook, mais il y a quand même des hétérogénéités par UFR. Mais ils ont tout un tas de leur petit environnement numérique à eux en fonction des outils qu'ils utilisent. Ils sont développés leur réseau social, les médias sur lesquels ils regardent, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des nouvelles notions autour de ce qu'on appelle l'identité numérique. C'est comment moi je me représente, moi étudiant, moi enseignant, dans ces dispositifs-là, avec tout un ensemble de notions qui sont un peu compliquées, mais qu'on avait déjà dans les classes avant, le premier de la classe, on savait dans une classe physiquement qui était le premier de la classe. Maintenant, dans un amphi qui soit virtuel, comment on fait pour savoir qui est le premier de la classe? C'est des choses autour de la réputation. Alors, chez les enseignants aussi, ça va changer des choses. C'est tout ça, ça perturbe. Avant, l'enseignant était tout seul, abandonné au milieu d'une île. C'est lâché dans son amphi des premières années, par exemple. Vous avez tous connu ça quand vous avez un cours. C'était compliqué, qu'est-ce qu'on doit faire? Où c'est que je suis? Mon Dieu, quelle est la tâche qui est harassante? Comment je vais m'en sortir avec tout ça? Donc, c'était un peu ça, quoi. L'enseignant, il était tout seul, il devait tout faire par lui-même. Et les premiers profs qu'on avait quand j'ai commencé à travailler, c'était en 96 à la fac, on construisait des cours pour un prof tout seul. Il faisait son PowerPoint, il faisait son cours, c'était à lui. Alors maintenant, ce qu'on voit apparaître, c'est plutôt, avec les UNT, des choses comme ça, des profs qui sont heureux de vivre, qui se mettent en groupe, qui se mettent les uns avec les autres, qui se relient les uns avec les autres. Et, par exemple, pour illustrer ça, pour les faire travailler entre eux, pour gérer leur réseau, les fédérer les réseaux. On travaille avec nos profs, ça c'est cette photo, je l'ai prise, on fait une formation, c'est en première année, on fait des formations de ce qu'on appelle des NEC, nouveaux enseignants-chercheurs, où on forme les enseignants à l'utilisation des réseaux. Bon, ils savent travailler en réseau, des réseaux scientifiques, des réseaux analogiques, mais les réseaux numériques, ils ne savent pas forcément les utiliser. Donc l'idée, c'est on passe des pelotes de laine, on leur pose des questions, on crée des liens entre eux, et c'est d'expliciter les liens implicites qu'il y a dans les réseaux virtuels, et comment on peut scénariser ça, comment ils peuvent utiliser ça, valoriser, demander des... trouver des compétences dans leur réseau, valoriser leurs recherches, communiquer, travailler entre eux pour s'aider, et plus être tout seul sur leur île déserte face aux étudiants. Bon, après, on fait ça, c'est des formations au bout de ficelle qu'on fait à l'université, mais c'est des choses qui marchent bien. L'idée aussi, c'est que le Web 2, c'est tout un ensemble de choses qu'on met à disposition des enseignants, que vous trouvez sur Internet, énormément de choses, des bases de données d'images, comme on a vu tout à l'heure. Il faut aussi aider les enseignants à faire leur politique éditoriale, avoir une ligne directrice là-dedans, à trouver quels sont les bons outils, en fonction si je suis en médecine, en fonction si je suis, etc., etc., quelle cible, comment je veux faire, si je cherche des vidéos, si je cherche des images, si je cherche à illustrer. Il n'y a pas de ligne générale. Chacun peut y trouver. Il y a tellement de contenu, tellement de choses. On peut aller chercher ce qu'on veut là-dedans. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut qu'on guide enfin, on sert un peu là-dessus de guide pour les enseignants de trouver des informations. Surtout des enseignants disent, mais c'est la fête du slip, le Web 2. On trouve plein de choses là-dedans, tout et n'importe quoi. Donc, il faut aider, les structurer. Une des choses qu'on a faites pour les structurer, les aider, c'est mettre dans l'université des outils qui ressemblent au Web 2 pour leur donner déjà des outils comme ça. Donc, on a fait un espèce de YouTube à l'université où peuvent eux-mêmes déposer des images, ils savent que c'est certifié par l'université, des choses comme ça. Donc c'est des outils qui commencent à leur donner. Vous avez créé un document pour votre cours, mais il n'y a plus que 5 minutes. Ce document, vous pouvez le sortir et l'exposer à d'autres et le mettre en situation, et ça a un intérêt à partager. On a aussi pas mal de développement autour des wikis, où là, c'est des scénarios un peu différents. Alors, le wiki, ben, c'est un mode où on vient déposer des informations entre les étudiants et les profs. Et ce qui est intéressant, c'est de donner cette dimension-là. Pour pas partir tout de suite sur le web, on peut donner aussi des progressions. Le wiki est fermé dans un groupe, il est fermé à un amphi, il est, etc., etc. On peut l'ouvrir à tout Internet, on peut le partager entre différentes universités. Et donc ça, c'est progressivement, les enseignants peuvent rentrer dans ces mondes-là, utiliser ces objets-là avec les étudiants, ou même entre eux, se partager entre eux. Au type de scénario qui utilise ces outils-là, c'est un cours qui est piloté par un blog, hein. Donc ça c'est un de mes cours, où toutes les semaines on donne des informations, et je demande aux étudiants d'aller choisir dans un wiki justement des thèmes à traiter. Donc c'est des cours de 10 semaines, je donne une quinzaine de thèmes à traiter, les étudiants viennent s'inscrire, viennent mettre leurs photos pour se reconnaître, c'est des cours jamais en présentiel, 2 minutes, il me reste 4 là d'après mon compteur, jamais en présentiel, ils peuvent échanger, s'abonner. Ensuite, une fois qu'ils sont inscrits dans un wiki, je mets à disposition des forums où ils peuvent discuter. Donc, ils sont limités en travail de groupe. Ils sont 4-5. Qu'est-ce qu'on va travailler? Qu'est-ce qu'on va mettre ensemble? Ils ont ensuite un wiki où ils viennent rédiger. Et c'est là où la richesse du web est intéressante. Ils vont être sur Internet récupérer des trucs, toutes les informations qui les intéressent. Ils travaillent là aussi en groupe. Et une fois qu'ils ont fait ce travail de groupe entre eux, ils vont exposer dans un autre blog, qui est le blog du thème, à toute la classe. Donc, je travaille en forum, on discute ensemble, on écrit dans un wiki et on le publie dans un blog. Et là, toute la classe peut venir commenter, tout l'amphi, ou etc., etc. Ça, c'est des scénarios qu'on fait avec plusieurs universités. Il y a des Français, il y a des Africains. On peut travailler complètement de façon asynchrone et à distance avec ces outils-là. C'est des choses qui marchent assez bien. On va publier les résultats. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus avec un financement AUF qu'on a eu. Autre chose. La semaine dernière, j'ai un prof qui est venu me voir, bon, c'est assez récent, il dit voilà, on va mesurer la Terre sur Facebook, c'est un prof de physique. Donc voilà, on va utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux, Facebook, pour que mettre en pratique le théorème, enfin la manip qu'avait fait un mathématicien grec pour mesurer la Terre, c'est-à-dire que on mesure l'ombre d'un bâton sur un même méridien à plusieurs endroits de la Terre. Donc là, on explique le principe physique de la mesure. Donc le prof a expliqué ça à ses étudiants, et le but du jeu, c'est que ses étudiants à lui, via Facebook, doivent trouver d'autres étudiants sur le même méridien. Donc on prend Lyon, première qu'on tombe au nord, université, c'est l'université de Louvain-la-Neuve, c'est dommage, Marcel devait venir ce matin, il n'est pas venu, qui est un prof de physique qui fait... Donc on a commencé les étudiants à contacter d'autres étudiants, les profs à contacter d'autres profs via Facebook. Et donc, en mettant en place la procédure, en expliquant comment il faut faire, trouver d'abord communiquer. Pour supporter ça, on a mis en place un blog qui explique, on a trouvé sur YouTube différents types qui expliquent la vie d'Ératosthène, les principes de mesure, l'erreur dans la mesure, des choses comme ça. Donc, le blog vient compléter les informations pour les étudiants. On peut aussi, c'est pas limité à des étudiants de première année de physique, ça peut être des étudiants des écoles, de lycée, des choses comme ça. Donc, il y a des informations de différents niveaux. Et ça, avec le prof, on l'a fait assez rapidement, c'est assez simple. Lui, il regarde des informations sur vidéo, on l'a fait ensemble pour mettre ça en place. Et ça, le but du jeu, c'est de poser plein de questionnements pour les étudiants sur l'erreur, sur la mesure, sur la communication, sur la motivation, des choses comme ça. Et là, le petit PowerPoint, les petits Lego, c'est lui-même qui a pris, pour expliquer ça, qui a fait son PowerPoint avec ses Lego. Donc, il a mis ça en ligne assez rapidement. Et le but du jeu, c'est maintenant, on demande à tous les étudiants de se filmer pour la mesure, pour que les autres valident ce qui est fait par les équipes. Et donc on demande à ces étudiants en Lyon qui ont mesuré, qui ont mis sur Facebook la manip, pour que les autres viennent contester ou pas valider la mesure qui a été faite à Lyon. Et on demande à chaque équipe qui participe à la mesure de faire des petits films comme ça. Et maintenant c'est super simple, un étudiant il prend son mobile comme ça, il filme, il le met sur Facebook, ça demande aucune technologie pour les étudiants. Il me fait courir, Albert Claude. Et pour en revenir, si vous avez suivi la conférence de Marcel Lebrun, c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil ce soir pour lui, c'est toutes ces technologies-là, toutes ces choses-là, agissent sur plusieurs endroits, sur le cercle pédagogique, le modèle pédagogique que Marcel propose, sur l'information, énormément d'informations qu'on peut aller chercher, sur les activités, on peut générer de nouvelles activités, sur les interactions, c'est des outils qui permettent de gérer les interactions entre les étudiants, entre les groupes d'étudiants, entre les étudiants qui sont dans votre université, qui sont en dehors de l'université, sur la production, l'exposition de la production, les étudiants peuvent créer des contenus, des films, des wikis, des choses qu'on peut projeter, et mettre à disposition pour les autres universités ou pour dans le groupe. Voilà.
Je vais réussir à vous montrer
Merci.
Ce que nous faisons grâce à la 3D à Lyon 1. Et on va vivre ça en direct un petit peu. Je me connecte sur Spirale. Bon, alors, imaginons que vous soyez... Je vais passer en mode étudiant. Donc, des étudiants de sciences du sport, ergothérapie et psychomotricité... travaillent donc tous et toutes de la même manière, à partir de Spirale. Donc on passe en mode étudiant sur la plateforme de Lyon 1, et sans surprise, on a une page d'accueil, et voilà comment donc les étudiants, depuis 4 ans, sont, invités à fonctionner. Ils ont donc à leur disposition des vidéos 3D, par lesquelles d'ailleurs je terminerai, et ces vidéos 3D permettent de rédiger un cours écrit, qu'est-ce qu'on va prendre, allez, l'arthrologie du bassin, avec des images extraites simplement par copier-coller. Et le cours, ceci est à préciser, est mis en ligne avant le cours magistral à la demande des étudiants, ce qui prouve bien d'ailleurs que, contrairement à ce que certains prétendent, la 3D ne met pas les enseignants au chômage, mais au contraire, incite les étudiants à travailler de manière différente. Les étudiants ont également à leur disposition les archives des contrôles continus. Et vous pouvez rédiger vos propres contrôles continus ou vos contrôles terminaux grâce à ce système. Et également des QCM, vous voyez, avec... intégrer à la plateforme Spirale les mêmes images de ces vidéos. Et si je reviens à l'accueil, des vidéos qui, et là c'est un clin d'œil que je fais spécifiquement à Marcel Spector, qui sont donc sur le site UV2S, où vous avez à la fois des PDF qui font l'admiration de tous, de toutes et de Albert-Claude Benhamou, et également des vidéos. Donc des vidéos dont vous voyez la liste, 46 vidéos qui sont aujourd'hui en ligne, qui permettent de traiter le tronc dans son entier, le membre inférieur dans son entier, et là, grâce à l'UV2S, merci Monsieur le Président Patrick Pelayo, nous avons donc attaqué le membre supérieur qui, nous l'espérons, dans un ou deux ans, sera terminé. Alors, là nous sommes en live, nous sommes en direct, voyez. On s'est essayé au podcast, qui amène un petit peu aussi de valeur ajoutée à nos vidéos 3D. Bon, la démonstration, vous l'avez déjà eue dans le hall, mais l'intérêt de ces podcasts type météo, c'est qu'on peut donner de la valeur ajoutée à des vidéos 3D qui sont finalement quand même assez rigides, assez figées un petit peu. Une fois qu'une vidéo a été terminée, il est quand même assez difficile de revenir sur le scénario. Alors, puisqu'on est bien parti, qu'est-ce qu'on s'offre? Allez, les pelvis trochantériens, un truc généralement impossible. Là, on est en live, hein, on est bien d'accord. Donc, Marcel, comme tu peux le constater...
On est en ligne.
On est en ligne et en live. Enfin, c'est un one-man show, là. Et donc, un chapitre particulièrement complexe, les pelvis trochantériens, qui mettent en évidence justement tous les intérêts de la 3D. Vous voyez notre petite figurine en haut qui se substitue aux trois axes habituels. C'est quand même bien agréable, d'autant plus que notre infographiste Olivier Rastello a particulièrement soigné son look, n'est-ce pas? Et par conséquent, même les notions les plus complexes peuvent être expliquées à des étudiants. Et j'ajoute une remarque qui m'a été faite pendant 2 heures, c'est-à-dire qu'on arrive à maintenir les étudiants éveillés, y compris les lendemains de soirée, pendant un temps relativement long, en tout cas beaucoup plus long qu'avec des transparents noirs et blancs. On a essayé de manipuler nos vidéos, nos PDF, avec une manette de jeu, oui, pour impressionner nos étudiants. Ça marche pas mal, ça impressionne surtout la télé. On a eu la 6, on a eu la 3, enfin la 2, la 9, la 40, enfin... Et c'est vrai que cet extrait d'une émission permet de montrer ce qu'on peut faire aussi, c'est-à-dire travailler en salle info, DTD, où les étudiants ont à leur disposition des squelettes, la plateforme pédagogique, donc dès le cours, les vidéos bien évidemment, et surtout, ça permet de leur proposer, de manière un peu autoritaire, des QCM notés à la fin du TD. Là, pour sensibiliser nos étudiants à la nécessité de travailler, rien de mieux. Si vous voulez, le thème de mon intervention, c'était de montrer comment on pouvait utiliser la 3D avec un objectif pédagogique. Les Américains ont déjà fait bien mieux, enfin bien mieux, non, bien plus précis. Nous, notre objectif, c'est d'aller, de répondre aux problèmes des étudiants lorsqu'ils abordent pour la première fois ces disciplines magnifiques, mais à la réputation si désastreuse au sein des amphithéâtres. Donc actuellement, on peut dire que 80% de notre programme d'anatomie fonctionnelle est traité, et qu'on a pu mettre en place une ingénierie pédagogique, basée bien évidemment sur la 3D, mais également sur une recherche en didactique sur notre plateforme pédagogique et des évaluations. Et demain, quand vous serez plein de courage après le petit déjeuner et vos deux cafés, je vous invite à venir assister à la conférence, enfin à la table ronde, avec Nadi Oyeh, qui est un petit peu le pilote de nos recherches en didactique des sciences et de l'anatomie. Et vous verrez qu'à partir des 3 mots-clés, structuration de l'espace, image mentale et rotation mentale, qui nous apparaissent 3 mots essentiels dans la compréhension ou dans la non-compréhension de l'anatomie, eh bien, on commence à avoir quelque chose à dire. Les évaluations, eh bien, c'est une évidence, il faut la faire. Non seulement on l'a faite après les enseignements, hein, donc au terme de 1 ou 2 semestres d'enseignement, mais avant, et on a évalué les attentes de nos étudiants. Le premier jour, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils attendent, donc, et on les questionne sur les nouvelles technologies. Demain, Emmanuel Sylvestre, dans la même table ronde, fera également le même, vous fera également le bilan. Je n'étais pas encore rendu compte. Alors, la plateforme pédagogique, dont vous l'avez vu, on peut travailler, y compris en salle informatique, c'est pas inintéressant. Le cours est donc mis en ligne avant. Hein. Après, je précise tout de suite que pour nous faire plein d'argent, les droits d'auteur étant reversés à l'université, je ne sais d'ailleurs toujours pas sur quelle ligne, eh bien, le cours est édité ainsi qu'un DVD chez De Bock. Et en fait, j'essaierai d'avoir le temps de vous le montrer tout à l'heure, pendant le cours magistral, les vidéos sont projetées, j'allais dire commentées. Je suis le Jean-Michel Larquier de l'anatomie, et c'est pas si désagréable que ça. Thierry Roland n'a pas voulu m'accompagner, c'est pas grave. Et bien entendu, on travaille un peu avec les PDF. Et après donc le cours magistral, des contrôles et des QCM. L'intérêt du format QuickTime, c'est qu'il vous permet par un simple copier-coller, mais aussi simple que pour brancher par exemple mon ordinateur, eh bien, vous pouvez donc réaliser vos cours écrits ou vos QCM ou vos contrôles. Un petit intérêt quand même qui n'est pas à négliger, c'est que ça permet de donner plus de cohérence à vos cours lorsque vous avez de nombreux vacataires qui doivent enseigner les mêmes chapitres. Alors aujourd'hui, c'est un bilan, parce qu'à chaque fois je montre mes vidéos, mes PDF, Albert Claude ne s'en lasse jamais, eh bien c'est le tronc est terminé, ostéo-arthro-myo, le membre inférieur est terminé, ostéo-arthro-myo, le tout fait environ 44-45 vidéos. Et puis là, je fais une petite incursion vers le paramédical, puisque j'enseigne également en ergothérapie et en psychomotricité, pardon. Non, pas encore la prétention de soigner le psycho des autres, sinon là, on est foutu. Donc le larynx, un projet magnifique. Là, Olivier s'est déchaîné sur ses cartilages et membranes, et le résultat est magnifique. Qui est un prolongement d'un projet financé par l'UMVF, qui est le coup. On a également quasiment terminé un projet sur l'oculomotricité qui présente la caractéristique de projeter 3 vidéos à la fois, et c'est assez intéressant pour justement la structuration de l'espace. Et comme gros projet en cours, on a abordé donc le membre supérieur avec, ça va venir, des animations, mais réalisées à partir d'acquisitions en IRM. Donc cela est en cours de réalisation. Et puis, il faut quand même parler de la suite. On va travailler sur la stéréoscopie 3D et la réalité augmentée. Demain, je crois qu'un de nos infographistes, Frédéric, dit Fredo dans l'équipe, eh bien, va vous faire quelques démonstrations. On va bien évidemment terminer 100% du programme d'anatomie fonctionnelle. On est en train de glisser vers les professions paramédicales, pour des raisons faciles à comprendre. On va aborder la physiologie. Sans doute, on va commencer par la circulation, la grande, la petite et la respiration tissulaire. On va continuer notre édition de manuel DVD chez Debo, qui va me permettre de changer de voiture si je touche les droits d'auteur. Et puis, le site UV2S, auquel nous étions connectés en 5 langues. Un projet qui est très intéressant, c'est de créer des ressources communes avec le ministère de l'Éducation nationale, sachant qu'un certain nombre de chapitres sont communs, qu'il s'agisse de la génétique, ou bien certaines molécules, ou bien les grandes fonctions en physio, qui intéressent aussi bien les lycéens que les primo-entrants. Développer les collaborations, jusqu'ici on a travaillé un petit peu en circuit fermé, mais on arrive maintenant à en trouver. Et puis, vers la formation continue. J'ai droit à une minute de plus. Oui, merci. Alors, quelques démonstrations. Je vais commencer par les PDF, parce que je sens qu'Albert Claude. C'est ça, voilà. Alors, ces PDF sont dus au cerveau génial de nos informaticiens. Vous voyez, ça c'est un exemple, l'articulation Atlas-Axis. Donc, c'est un simple PDF, c'est tout. Olivier, si vous posez des questions, ça sera Olivier tout à l'heure qui va lever le doigt, qui va vous répondre. Donc, regardez l'intérêt. Vous allez expliquer comment l'axis et l'atlas font copain-copain, rien qu'avec des mots. C'est pas évident. Si en plus vous avez des staps, c'est encore un tout petit peu moins évident parce que l'atlas, l'axis, ils aiment pas trop sauf s'ils sont rugbyman. Si en plus c'est un vendredi de 14h à 16h comme c'était mon cas, un lendemain de soirée, une frappe, ben, croyez-moi, il faut se lever matin. Eh bien, justement, grâce à ce type de PDF, vous voyez, vous faites deux fois de la 3D. Vous pouvez même zoomer. Pendant que ça se déplace. Donc, en fait, là, vous commencez à susciter de l'intérêt. Vous pouvez réaliser plusieurs types de mouvements. On ne développe pas totalement encore cette technologie, tout simplement parce que ça prend du temps, et puis parce qu'on se concentre justement sur nos vidéos 3D. Deuxième exemple, le pied. Donc, même principe. Je peux réaliser un zoom simplement en actionnant la molette, vue éclatée. Vous pouvez enlever des objets. Donc, dans le cas là, vous pouvez par exemple masquer le talus. Vous pouvez inverser. Vous pouvez réinverser. Vous pouvez zoomer, tout remettre en place. Vous pouvez nommer calcaneus. Vous voyez. Vous avez une prise de notes, fonction prise de notes qui est intégrée. Oups, pardon. Non. Et par conséquent, évidemment, j'oublie l'inverse, j'ai oublié l'essentiel. Vous pouvez réaliser des mouvements d'éversion et d'inversion, etc., etc. Donc, c'est vrai que lors des congrès, je suis toujours certain d'avoir du succès auprès de mes admiratrices et de mes admirateurs. Grâce à ces PDF, et c'est vrai qu'il y a là un potentiel vraiment à exploiter. Ah tiens, je suis sur l'oculomotricité. Donc là, on voit trois vidéos simultanément qui permettent, vous voyez, de mieux structurer l'espace sur un sujet quand même qui est assez épineux. Là, on a un autre exemple. C'est un projet donc financé par l'UMVF. Merci l'UMVF, et qui est quasiment terminé. Oups. Comment je ferme? Alors, j'arrête, parce que sinon...
Merci.
Voilà, donc on est parti, mais je vais aller en dessous. Donc je passe rapidement sur la réalisation du projet. Je vais parler un petit peu plus et surtout vous montrer le contenu de ce logiciel, l'utilisation qu'on en fait, et un très rapide retour des étudiants. Donc le projet est parti d'une discipline, là aussi, considérée généralement par nos étudiants en deuxième année de FCB, la physiologie, comme lourde, indigeste même, etc. Et donc, ça fait bien longtemps aussi qu'on a arrêté l'expérimentation animale à cause d'une sensibilité éthique et qu'on a des logiciels qu'on utilise. Ces logiciels avaient quand même un inconvénient. Très souvent, ils étaient en anglais. Donc, la discipline a décidé de se rapprocher de la cellule TIS de notre université, qui est en fait assez petite, et de ce fait, s'est adjoint les services d'une entreprise privée, donc Idoceo. Alors, pour réaliser ce logiciel, donc on est parti de... les auteurs sont partis de l'existant, donc le diaporama du cours, les schémas associés, ainsi qu'une version entièrement rédigée du cours, qui aurait d'ailleurs pu être utilement lu par le professeur, plutôt que par un comédien, qui est en fait une comédienne, et dont apparemment la voix off ne passe pas toujours très bien. Donc pour la partie pratique, donc il y a eu bien sûr les idées des expérimentations précédentes qui existaient, donc des données, des exercices, et spécialement pour le logiciel, un scénario a été établi et une collection de questions adéquates. Donc en fait, on a réinventé un petit peu de façon artisanale et localisée un serious game, bien moins sexy. Et ceci donc sur un organe et des fonctions très intéressantes quand même. Donc la physiologie rénale est particulièrement adaptée à la pharmacie puisque cet organe est responsable notamment de la détoxication des xénobiotiques et bien sûr des médicaments. Alors le contenu du logiciel, donc ce sont plusieurs modules dont les plus importants, le cours expositif, le cours lui-même, ainsi que plusieurs, en réalité il y en a trois, des séquences de TPED qui sont plutôt des ED que véritablement des travaux pratiques puisque ça a lieu en salle audiovisuelle strictement. Donc ce cours expositif, l'étudiant est censé le travailler au préalable chez lui. Bien entendu, c'est une partie seulement de l'enseignement de la physiologie qui est traitée de cette manière. Il y a aussi tout le reste qui est enseigné de façon classique. Donc ce cours expositif, à tout moment, permet d'accéder aussi au module du glossaire. Donc pour les étudiants, je rappelle, ça s'adresse à des deuxièmes années, donc ils sont quand même encore assez novices. Et à la suite de ce cours, l'étudiant lui-même doit se positionner. Donc il y a deux modules de positionnement, un positionnement initial qui autorise ou non l'étudiant à venir en enseignement pratique et dirigé. Et il y a l'évaluation finale qui va permettre donc de donner quand même une note pour cette séquence de TP. Alors pour les étudiants, je dirais aussi les enseignants qui ne sont pas motivés, donc il y a une présentation du TP. Donc la présentation du TP qui fait appel à un cas clinique, donc qui illustre bien les objectifs de l'enseignement et à quoi l'étudiant doit
Madame
pouvoir
G,
aboutir,
la patiente,
aboutir,
âgée de 54 ans,
à savoir
est
donc
dans un service
répondre
de néphrologie.
À des cas cliniques.
Madame J est une malade qui souffre d'hypertension artérielle traitée depuis l'âge de 40 ans. Elle reçoit de nombreux médicaments, dont plusieurs comprimés par jour de furosémide, l'Azilix. Le médecin l'a hospitalisée dans le service pour faire un bilan de son état de santé qui s'est dégradé récemment.
Quand on voit la première fois, mais...
Bonjour madame, aujourd'hui nous allons pouvoir faire un point précis sur votre état de santé puisque je viens de
recevoir
donc
les
résultats
questions
des
qui
examens
se posent sur le cas clinique.
Prescrit.
L'étudiant on lui pose aussi d'entrer dans la présentation. Donc est-ce qu'il va savoir répondre, etc. Et donc c'est un petit peu ce qui explique tout l'intérêt des séances pratiques qui vont suivre. Donc là, il y a bien sûr la possibilité pour l'étudiant d'écrire ses remarques, etc. Il y a un temps de pause qui permet de poursuivre. Donc c'est simplement la présentation de l'intérêt de ce logiciel. Alors j'ai une version portable du logiciel interactif. Si je veux vous montrer autre chose, je suis à chaque fois obligée de repartir. Donc les différents modules, le plus important, le cours expositif. Donc avec l'exposé, comme j'ai dit tout à l'heure, qui aurait pu être lu, enfin expliqué par le professeur. Là, en l'occurrence, c'est peut-être moins sympa puisque c'est une comédienne qui le fait. On sent qu'il y a des moments où c'est peut-être pas exactement comme ça que le scientifique l'aurait présenté. Donc il y a des schémas illustrés, des zones à découvrir, des tas de choses pour que l'étudiant ne s'endorme pas pendant qu'il travaille cette partie chez lui avant de venir en séance d'enseignement. Donc les évaluations, je vous en ai parlé déjà un tout petit peu. Donc il faut savoir qu'il y a donc une banque de questions. Les questions sont tirées au sort, donc de façon aléatoire. Un étudiant refait le questionnaire, il ne retombe pas forcément sur les mêmes questions, enfin à moins de le faire un très très grand nombre de fois. Et ce questionnaire donc est également, on demande à l'étudiant de le faire au départ avant de venir en séance, puis on lui redemande au début de la séance de le refaire pour voir si effectivement il a travaillé, parce que bon, il peut dire il l'a fait, il a eu un bon score, il vient, etc. Bon, ceci dit, même s'il a fait un mauvais score, même s'il a menti, il vient quand même, il fait son TP, il va bien s'apercevoir qu'au final, dans l'évaluation terminale, il n'aura pas une bonne note. Ça lui aura servi de leçon, peut-être, que sur un prochain enseignement de ce type-là, il va finir par travailler son cours. Voilà. Donc, les séquences de TP, donc, il y a plusieurs séquences qui sont prévues. Donc, là, actuellement, il y en a trois sur la physiologie rénale. Chacune de ces séquences prend à peu près une heure et demie à réaliser en pratique. Donc, elles sont réalisées en pratique. C'est vrai que l'étudiant travaille individuellement, mais il y a toujours dans la salle des enseignants à tout moment. S'ils veulent s'interrompre, ils ont besoin de poser des questions, c'est possible. Donc dans ces séquences, il y a aussi des rappels de cours, bien sûr toute une série de questions, des exercices interactifs avec tous les jeux de questions qu'on peut utiliser et qui sont classiques dans les chaînes éditoriales. Voilà. Alors j'ai fait très vite, donc j'en arrive à la fin. Le retour des étudiants, comme vous pouvez vous imaginer, c'est un petit peu, c'est assez variable, puisqu'il y en a qui trouvent ça très bien, il y en a qui se disent même... au final, on n'a plus besoin d'un prof. Et puis, il y en a quand même beaucoup. Et là, j'en connais quelques-uns, donc notamment qui passent, je dirais, toute leur soirée sur des sites à jouer, etc., et qui me disent « Ah oui, mais non, mais moi, pour apprendre, c'est pas question que je passe par un logiciel comme ça, etc. » Donc, je pense qu'il faut quand même rester très, très vigilant dans tout ce qui est le suivi, même si c'est à distance, mais l'accompagnement, le suivi des étudiants. Voilà. Merci beaucoup.